Radio Okapi.
Bienvenue dans le journal sur Radio Okapi, la radio de la paix, pour une information sûre et vérifiée. Au micro, Gisèle Cage, tout de suite les titres. Francophonie, la RDC propulse Juliana Lumumba sur la scène internationale. Entre héritage historique, engagement politique et vision africaine affirmée, Kinshasa défend avec force sa candidate au secrétariat général de l'OIF. Réforme scolaire, la province éducation plateau opte la méthode Tarle. Avec l'appui de l'UNICEF, cette approche innovante vise à renforcer les compétences de base des élèves grâce à des pratiques pédagogiques adaptées. Face aux ADF, que va-t-il se passer maintenant après le forum de Beni? Les vérités de Jean-Baptiste Kasekwa. En vite du journal, il décortique les priorités, les actions attendues, les défis qui pèseront sur les autorités et leurs partenaires. Un échange à suivre absolument en fin du journal. C'est une figure en nom lourd d'histoire que la RDC propose pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Juliana Amato Lumumba, fille du tout premier premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, est la candidate officielle portée par Kinshasa. Le gouvernement met en avant un profil mêlant expérience politique, héritage historique et engagement intellectuel. Mais qui est vraiment Juliana Lumumba, encore peu connue d'une partie du public congolais? Élément des réponses dans ce récit signé Blaise Ndongala Mayanda, rendu par Blaise Shindani.
À travers la candidature de Juliana Lumumba, les autorités congolaises ambitionnent de renforcer la présence et l'influence de la RDC au sein de l'espace francophone mondial. Kinshasa met en avant un profil qui combine expérience politique, légitimité historique et engagement intellectuel. Le gouvernement estime que Juliana Amato Lumumba incarne une francophonie renouvelée, davantage tournée vers la jeunesse, la diversité culturelle et les défis contemporains tels que l'éducation, la transformation numérique ou encore la coopération sud-sud. Juliana Lumumba a poursuivi des études supérieures en sciences politiques, gestion publique et relations internationales. Cette formation a nourri un engagement croissant dans les domaines de la gouvernance, de la culture et de la coopération inter-État, des thématiques qui ont façonné l'essentiel de sa carrière. Polyglotte et habituée à des environnements multiculturels, elle développe très tôt un intérêt marqué pour les questions liées à l'identité africaine, à la mémoire historique et à la place du continent au sein des institutions internationales. La visibilité politique de Juliana Lumumba s'accroît lorsqu'elle est nommée ministre de la Culture et des Arts entre 1998 et 2001. Après cette expérience gouvernementale, elle s'oriente vers des engagements internationaux.
La nouvelle approche du système éducatif congolais poursuit sa mise en œuvre dans la province éducation plateau à Kinshasa. Ce vendredi, la conseillère de la ministre de l'Éducation nationale a constaté sur le terrain les avancées enregistrées lors d'une visite dans plusieurs écoles de la commune de Lancélé. Avec l'appui financier et technique de l'UNICEF, l'approche Tarle enseignée au bon niveau permet désormais aux enseignants d'utiliser des méthodes d'apprentissage variées, dont les projections et d'autres outils adaptés pour renforcer la maîtrise des leçons et améliorer les performances des élèves. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'approche Teaching at the Right Level est une nouvelle méthode pédagogique centrée sur l'élève. Elle vise à permettre aux enfants d'acquérir rapidement les compétences de base en lecture et en calcul en les regroupant selon leur niveau réel d'apprentissage et non selon leur âge ou leur classe. Cette réforme vise à rattraper l'héritage scolaire des enfants ayant connu des parcours scolaires perturbés par les manques de moyens financiers ou par les crises sociales. À l'école primaire Mama Sifa, l'enseignant Jean-Olivier Kabela affirme que cette méthode facilite la compréhension des leçons chez les élèves.
Auparavant, on utilisait les matériels didactiques. Avec cette approche, il y a des matériels précis qu'on peut utiliser pour que l'enfant arrive à bien comprendre. Nous pouvons faire la lecture à travers les images.
Pour sa part, Dora Mwanda, conseillère de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, s'est réjouie de l'engagement des enseignants de ces coins de la capitale dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie nationale.
D'abord, j'ai été émerveillée par la prestation des enseignants parce qu'on sent qu'ils ont été formés
On sent qu'ils se sont engagés, qu'ils ont pris cette méthodologie au sérieux et qu'ils s'appliquent du mieux qu'ils peuvent. J'ai été émerveillée de l'engagement des élèves aussi, parce qu'ils sont eux aussi dans des conditions difficiles.
Depuis octobre dernier, au moins 54 écoles appliquent déjà l'approche TARL dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau.
Au Nord Kivu, l'hémorragie scolaire prend une ampleur alarmante. 14 écoles de Goma et de Sake ont perdu plus de 2160 élèves en un an, révèle une enquête de l'ONG Secours aux Vulnérables SAV en sigle. Le chiffre parle d'eux-mêmes, de près de 9970 élèves recensés en décembre 2024. Les effectifs sont tombés à environ 7680 en décembre 2025, soit une déperdition de plus de 28%. Et l'inquiétude ne s'arrête pas là. Le coordonnateur de SAV alerte, plus de 1000 enfants encore inscrits sont aujourd'hui considérés comme hautement vulnérables. Il appelle les autorités et les partenaires à agir d'urgence pour éviter un décrochage massif. On écoute à présent Espoir Kikuni, coordonnateur de SAV, au micro de Bernard Nyangui.
De 2162 élèves, 1141 filles qui ont abandonné et 1021 garçons, équivalent à 47,2%. Aussi, au total, nous avions identifié 1023 enfants orphelins et vulnérables. Parmi les facteurs qui a occasionné cette déperdition, il y a eu d'abord manque de fournitures scolaires. Il y a aussi des difficultés de paiement des frais scolaires. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dans la ville de Goma et ses environs le retour de la prime aux écoles primaires. Il y a eu aussi les problèmes de l'insécurité alimentaire. Un enfant ne peut pas venir à l'école et si il a passé deux ou trois jours sans mettre quelque chose sous la dent. Nous avions lancé déjà un SOS aux personnes qui peuvent être touchées par cette situation, de s'impliquer pour trouver solution à ces problèmes. Et si on ne le fait pas, c'est une bombe à retardement dans la région. Le banditisme, le cas de violence, mariage forcé, si vous pouvez passer même dans les artères, maintenant ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'enfants qui traînent déjà dans la rue.
Et pour mesurer l'ampleur de la crise, rappelons qu'un rapport humanitaire publié début février fait état de plus de 431 000 enfants actuellement hors du système scolaire dans l'ensemble du Nord Kivu, tandis que 1142 écoles y restent fermées. Dans le Maniema, la grogne monte au sein de l'inspection provinciale de la province éducationnelle Maniema 1. Inspecteur d'État et agent administratif tirent la sonnette d'alarme. Ils disent travailler dans des conditions de plus en plus intenables. Dans une déclaration publiée ce jeudi 26 février à l'issue de leur assemblée générale, ils dénoncent un possible détournement d'une large partie de frais de fonctionnement destinés au pôle primaire. Selon eux, alors que le listing officiel affiche 600 000 francs congolais, le pôle ne recevrait que 175 000 francs, une différence jugée inquiétante et injustifiable. Après de multiples démarches restées sans suite, ces inspecteurs appellent désormais le chef de l'État à se saisir du dossier pour faire toute la lumière sur ces fonds et garantir qu'ils arrivent là où ils sont réellement attendus. On écoute leur secrétaire provincial Zachary Bafoafoabea au micro de Florence Kizalunga.
Dans nos analyses, nous avons relevé le fait que les poules primaires dans la province éducationnelle Maniema 1, ces poules bénéficient de frais de fonctionnement de l'ordre de 175 000 francs par mois, alors que sur listing, c'est prévu 600 000 francs. Donc, il y a présumé détournement de 425 000 francs par mois. Et cela depuis juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas la destination de ces frais-là. Au-delà de ça, il y a la prime pour fonction spéciale allouée à tous les inspecteurs et agents administratifs d'appoint, nous n'en avons pas jusque maintenant. Dans l'itinérance, nous manquons les moyens de transport, nous manquons les outils informatiques pour nous permettre de produire nos rapports d'inspection. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, qui prône sur la qualité de l'enseignement, de veiller sur la vie de l'inspecteur. Et là, il doit voir comment diligenter une enquête pour vérifier les présumés détournements que nous venons de dénoncer, mais aussi il doit regarder comment aussi payer la prime pour fonction spécial à tous les inspecteurs dans les 54 provinces éducationnelles non encore bénéficiaires.
Dans les territoires de Fizi, une pluie diluvienne s'est abattue ce jeudi 26 février, plongeant les secteurs de Mutambala, notamment le village de Mukera, dans un chaos profond. Le bilan provisoire est lourd, 3 blessés, 15 maisons réduites en ruines et 2 ponts emportés par la force des eaux. Selon l'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badibanga, cette catastrophe n'a rien d'un simple phénomène naturel. Il pointe du doigt la destruction massive de l'écosystème, abattage anarchique des arbres, sol déstabilisé par l'exploitation artisanale des minerais, opération menée aussi bien en amont qu'en aval des collines, autant de pratiques qui fragilisent dangereusement le milieu. Joint au téléphone par Jean Kassami, l'administrateur revient sur l'ampleur des dégâts et lance un appel à une prise de conscience collective, alors que la région paye, selon lui, le prix de ses propres dérives environnementales.
Au village Mukera, secteur de Mutambala, groupement des Bashimukuma Nord, un vent violent a détruit 15 maisons d'habitation et blessant 3 personnes. C'est jeudi 26 février 2026. Les territoires de Fizi payent aujourd'hui les conséquences de sa destruction de l'environnement après avoir emporté la tature du bâtiment administratif et causant d'énormes dégâts matériels en date du 19 février 2026, laissant les services publics de l'État prestant à ciel ouvert. La pluie a de nouveau causé d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Le 23 février 2026, 3 personnes ont trouvé la mort suite à l'effondrement des ponts dans les secteurs d'Enkandia, groupement de Baskasilo, au village Misisi, sur la rivière Kimbi, les ponts Kimbi-Mabash et les ponts Mishengele reliant la province du Sud-Kivu à la province du Maniema ont été emportés par les eaux des ruissellements.
L'autorité politico-administrative du territoire appelle la population à réagir sans attendre. Elle exhorte chacun à protéger la biodiversité en reboisant les collines, mais aussi les abords des écoles, des églises et même des avenues afin d'éviter que ce type de catastrophe ne devienne la norme. À Kananga, dans le Kasaï central, le gouvernement remet un sérieux coup d'accélérateur au secteur agricole. Le ministre national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire Muindo Nzangi est en mission officielle depuis ce jeudi. Objectif, passer en revue les projets agricoles en cours et lancer la nouvelle campagne des cultures pérennes, ces cultures capables de produire plusieurs années sans replantation, un enjeu majeur pour la province. Sur place, le ministre réaffirme la détermination du gouvernement congolais à faire de l'agriculture l'un des piliers du développement national, un secteur stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire, dynamiser l'économie rurale et réduire la dépendance aux importations. On écoute à présent Muindo Nzangi, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, au micro d'André Katende Ngalamulume.
Je suis arrivé pour évaluer toutes les activités d'accompagnement du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec tous les projets. Je suis venu spécialement pour lancer ici dans l'espace Grand Kasaï cette grande campagne de produits pérennes. Nous allons installer dans chaque territoire et pépinières communautaires de 250 000 plantilles. Déjà pour 3-4 territoires avec des pépiniéristes qui vont former les gens dans les villages. Je suis venu aussi pour voir Lubondai. Comme vous le savez, le chef de l'État avait mis beaucoup d'argent dans ce projet pour avoir des infrastructures de parcs agro-industriel dans le territoire du Baya. Il se peut que depuis que cela a été fait, les activités ne se déroulent pas telles que nous le souhaitons. Donc je vais aller avec les autorités provinciales à Lubondai pour que nous puissions prendre les dispositions utiles sur terrain et voir comment nous pouvons relancer ces grands projets. C'est la revanche du sol sur le sous-sol que le chef de l'État a prôné et nous avons dit nous y allons avec une révolution agricole agressive pour que tout et chacun partout où il se trouve sache qu'on ne peut pas développer ce pays si on n'aime pas l'agriculture au premier plan.
À Kabinda, dans la province du Lomami, un souffle nouveau arrive pour l'accès à l'eau potable. La régie des eaux Kabinda vient de recevoir 2 groupes électropompes neufs livrés avec tous leurs accessoires, un appui direct de la direction générale pour booster la production et la distribution d'eau dans la capitale provinciale du Lomami. Selon les responsables techniques, ce matériel va augmenter nettement la capacité de pompage et améliorer la régularité des dessertes. Un véritable soulagement pour les ménages confronté à une demande croissante. Le chef de centre secondaire Abakouk Kiabou Moulinda salue une dotation déterminante pour répondre aux besoins de la population. Il remercie la hiérarchie nationale et assure que les équipes locales sont prêtes à optimiser l'utilisation de ces nouveaux équipements. On écoute à présent Abakouk Kiabou Moulinda dans cet extrait recueilli par Ezaboto Yombwe, correspondant de Radio Veritas à Cabinda.
Il n'y a pas deux jours que notre DG de l'Argie des Eaux, David Chulumba Mutombo, venait de nous envoyer deux groupes électropompes pour avoir au moins des équipements, des réserves bien sûr, pour les forages. La fois passée, il nous avait envoyé un nouveau groupe. Et présentement, il vient de nous envoyer des groupes électropompes avec tous les accessoires possibles. Au cas où il y a une panne, la population ne peut pas s'inquiéter. Deuxième information, nous venions de faire des analyses bactériologiques de l'eau. On l'a fait sur quelques bonnes fontaines et sur quelques branchements pour analyser notre eau. Et les résultats attestent que nous donnons l'eau de bonne qualité à notre population.
Abakouk Kiabou Moulinda appelle enfin les abonnés à s'acquitter régulièrement de leurs factures, garantissant ainsi la viabilité du service. Il provient des mesures de coupure pourront être appliquées aux abonnés insolvables conformément à la réglementation. Au Nord Kivu, la tension reste explosive dans une large partie du territoire de Masisi. Depuis les premières heures de ce vendredi, plusieurs sources locales font état des violents affrontements sur l'axe Kinyumba où les rebelles AFC M23 se heurtent aux miliciens Wazalendo. Et la veille déjà, l'ambiance était électrique quand un engin explosif a détonné jeudi soir au centre de Nyabiondo, blessant au moins 3 civils selon ces mêmes sources. Les détails, c'est avec vous, Grâce Hamzati.
Depuis l'aube, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues autour du village de Kinyumba, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Nyabiondo, dans le secteur Osobanyongo. D'après nos sources, il s'agirait d'une attaque lancée par les combattants de l'AFC M23 contre des positions tenues par les miliciens Wazalendo. Ces hostilités interviennent après une journée déjà marquée par de fortes tensions sur l'axe Mahanga, quelques kilomètres plus au sud de Nyabiondo. Là aussi, des affrontements ont été signalés autour de la colline Kilongo, près de Buhimba, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Et vers 18h, jeudi, un engin militaire a explosé dans le quartier Isiro, au centre de Nyabiondo, blessant 3 civils. Depuis une dizaine de jours, les combats s'intensifient entre des groupes Wazalendo alliés au FRDC et les rebelles de l'AFC M23 dans plusieurs zones du territoire de Masisi. Une situation qui aggrave la crise sécuritaire et humanitaire, particulièrement dans les secteurs Osobanyungu et Katoi, ainsi que dans la chefferie de Bahoundé.
Actualité internationale.
À Gaza, le cessez-le-feu du 10 octobre n'a pas mis fin aux souffrances de la population. Malgré l'arrêt officiel des hostilités, les civils continuent de mourir, victimes non seulement de tirs israéliens, mais aussi du froid, de la faim et de la maladie. Devant le Conseil de droits de l'homme à Genève, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dressé un tableau sans équivoque. La trêve n'a pas freiné la catastrophe humanitaire. Selon les chiffres communiqués par son bureau, plus de 600 Palestiniens ont été tués et plus de 1600 blessés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Parallèlement, au moins 80 Palestiniens auraient été tués par le Hamas, principalement lors d'exécutions sommaires ou d'affrontements internes, une violence supplémentaire qui touche elle aussi la population civile. Si les bombardements ont diminué, les conditions de vie dans l'enclave restent dramatiques. Gaza compterait aujourd'hui le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, de la guerre, mais aussi de l'effondrement quasi total du système de santé détruit et privé de ressources.
L'invité.
À Beni, le forum provincial consacré à la menace ADF s'est clôturé sur un message fort. Il faut une riposte globale, intégrée et coordonnée. Ce rendez-vous tenu dans le chef-lieu provisoire du Nord Kivu a appelé le gouvernement, ses partenaires et la communauté internationale à changer l'échelle face aux ADF, désormais alliés à l'État islamique et actifs aussi bien en Ituri qu'au Nord Kivu. Mais une question cruciale demeure, comment transformer ces recommandations en action concrète sur le terrain. Pour en parler, nous recevons Jean-Baptiste Kasekwa, vice-président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, et participant à ces travaux. Il est au micro de Martial Papi Mokeba.
Jean-Baptiste Kasekwa, bonjour.
Bonjour, merci.
En quoi les recommandations ici de ces forums peuvent-elles réellement changer la dynamique de la lutte contre les ADF sur le terrain, notamment pour les populations de Beni, Gutembo, Lubero et même de l'Ituri?
Il faut que les services de sécurité congolais apprennent à écouter avec beaucoup d'intérêt ce que dit la population. Il faut rétablir la confiance entre les populations et nos services de défense et de sécurité. Les populations ont dit connaître bien des choses, mais elles se disent ne pas être écoutées. Deuxièmement, le gouvernement central, à partir de Kinshasa, doit accorder la même attention à la crise des ADF au même titre que la crise du M23, raison pour laquelle nous allons nous impliquer. Il faut un plan national d'éradication des ADF. Que ce plan-là soit établi le plus rapidement possible, qu'un forum national se tienne à Kinshasa autour de la question des ADF. Nous disons trop c'est trop, nous n'allons plus supporter que l'on gère la question des ADF comme à tâtonnant.
L'opposition a souvent dénoncé l'écart entre les engagements pris et leur mise en œuvre. Qu'est-ce qui cette fois-ci devrait être fait différemment pour éviter que les résolutions de ces forums ne restent lettres mortes?
Nous allons remobiliser tous les députés nationaux, tous les sénateurs pour engager leurs responsabilités, mais il faut redonner la parole aux populations. L'état de siège est venu museler ces populations-là. Or, tant que les populations ne s'expriment pas, Kinshasa considère que la crise des ADF est à 2000 km. Pour que les recommandations ne restent pas lettres mortes, nous devons redonner la parole à la population, à la société civile, mais également nous, au niveau national, nous allons nous remobiliser davantage que le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Les militaires, parfois, Synergie, UPDF, MONUSCO, font leur travail, mais même les éléments de la police manquent, même les administrations territoriales sont abandonnées. Et donc, il y a des questions pour lesquelles nous serons sans complaisance vis-à-vis du gouvernement central.
Tout le monde qui est intervenu dans ce forum a insisté sur une chose, il faut cette fois-ci une solution globale.
Absolument, non seulement une solution globale, mais j'ai noté avec beaucoup d'intérêt des populations qui gardent le souvenir de l'engagement de feu général Baouma. Ce témoignage démontre que les FADC sont capables d'éradiquer ce phénomène à peu de temps avec l'appui de ses partenaires. Le problème réside au niveau du manque d'engagement, manque de volonté du gouvernement. On prononce des discours, on donne des promesses et finalement, arrivé au pouvoir à Kinshasa, on oublie tout. Donc nous allons interpeller de nouveau l'attention de l'exécutif et ensemble avec la remobilisation de la population qui, à partir de ce forum, voit son intérêt ressuscité autour de ce phénomène-là, nous pensons pouvoir faire bouger les choses.
Certains intervenants ont insisté sur le fait que la guerre contre les ADF, aujourd'hui affiliée au groupe terroriste de l'État islamique, la RDC ne peut pas la gagner seule.
C'est vrai, et je salue l'engagement de partenaires. Mais que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'UPDF, ou même l'armée étrangère, l'OTAN, aucune armée étrangère ne peut en elle seule résoudre le problème si, à la base, nous ne donnons pas au FADC, à la PNC, aux services de renseignement congolais, la priorité des priorités. Aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est UPDF qui passe à l'avant-plan, c'est la MONUSCO qui doit passer à l'avant-plan, et que les FADC viennent en appui. Non. Nous ne gagnerons jamais cette guerre si nous ne faisons pas sauter que les FADC passent à la première place et les autres viennent en appui. Et cela dépend de l'engagement du politique que nous sommes.
Jean-Baptiste Kasekwa, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Jean-Baptiste Kasekwa, vice-président de l'ECID, avec son analyse sur les suites attendues du forum sur les ADF à Beni. L'entretien a été conduit par Martial Papi Moukeba. Merci d'avoir suivi ce journal avec Gisèle Cage. Pour prolonger cette édition, retrouvez vidéos, articles, interviews et mises à jour sur toutes nos plateformes et notre site web Radio Capi, la radio de la paix et de l'info vérifiée. À très bientôt.